Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Quels sont les avantages de la libéralisation du secteur des assurances? Vous savez, la RDC a libéralisé le secteur des assurances depuis le mois de mars de l'année dernière. Et d'après les experts, l'assurance n'est pas un produit de luxe. C'est un produit de première nécessité. Malheureusement, bon nombre de Congolais n'ont pas encore cette culture d'assurance. Alors, quels sont les avantages de cette libéralisation du secteur des assurances? Pourquoi faut-il s'assurer? Pourquoi faut-il avoir une assurance? Voilà, on aura des réponses à toutes ces questions avec notre invité, Monsieur Armand Bogno, expert en banque, assurance, épargne et en évaluation des politiques publiques. Monsieur Armand, encore une fois, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, on parle des assurances. C'est quoi une assurance?
Ben, écoutez, une assurance, si on veut prendre une définition simple, compréhensible par tous, c'est le fait pour un individu, une institution, entreprise, ONG, tout ce qu'on veut, de transférer des risques vers une autre institution plus forte qu'on appelle l'assureur pour pallier à des aléas. C'est ça le rôle des assurances. C'est je transfère vers un autre ce qui pourrait m'arriver pour que lorsque ça va arriver, si ça devait arriver, ça me coûte le moins possible.
Je crois. Transfert des risques. Voilà.
Définition à minima, on fait pas trop de technique pour toucher le large public.
Alors, vous parlez des aléas. Quels sont ces aléas qui peuvent arriver?
Ben, ça dépend du coup du type d'assurance. Prenons des exemples concrets, compréhensibles par tous encore une fois. J'ai mon véhicule. J'ai connu un accident de la circulation. Je suis chauffeur de taxi. Donc, mon véhicule, c'est aussi mon commerce. Lorsque je commets un accident de circulation, ce véhicule est immobilisé. Je peux avoir une assurance qui permet de pallier pendant la période d'immobilisation du véhicule. Mais entre-temps, ce véhicule a également causé des dommages corporels à un individu qui n'a rien demandé à personne, qui passait par là au mauvais moment. Cette personne-là aussi, son activité économique est ralentie, peut-être même stoppée. À cette personne, il faut des indemnités. C'est encore l'assureur qui va venir pallier. Donc, quelque part, et vous l'avez bien précisé dans votre introduction, l'assurance n'étant pas un produit de luxe, c'est vraiment un produit de première nécessité. Vous voyez, dans ces cas, ça permet à un individu d'avoir des soins de qualité parce que assuré, parce que le véhicule, le responsable de l'accident est assuré. Ça permet au chauffeur éventuellement d'avoir un petit capital pour continuer son activité, éventuellement réparer, changer de véhicule parce qu'il était assuré. Donc, voilà, l'assurance, c'est un peu l'arbitre d'un match sociétal où on est beaucoup plus serein puisqu'il y a quelqu'un qui va prendre en charge tout ce qu'on aurait dû prendre en charge soi-même si on n'avait pas été assuré.
Alors, quels sont les différents types d'assurance?
Vous savez, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Je me souviens, à l'époque, à la SODAS, j'ai initié un catalogue qui comprenait à peu près 64 produits d'assurance et encore, on peut en avoir 200 ou 300. Par contre, effectivement, si on veut revenir aux grands types connus, il y a des assurances dommages, qui sont des assurances aux biens. Il y a des assurances de personnes, qui sont des assurances destinées à la personne elle-même. C'est les deux grandes catégories. Après, vous avez des catégories un tout petit peu qui sont à cheval entre de l'assurance et de l'assistance. C'est par exemple tous les produits qu'on a d'assistance des personnes, des protections juridiques. Donc, en gros, on peut mettre trois grandes catégories, les personnes, les biens, puis les services.
On entend aussi souvent parler de l'assurance vie. De quoi s'agit-il?
C'est une assurance aux personnes. L'assurance vie, c'est une assurance. Alors, c'est l'assurance en cas de vie ou en cas de décès. Alors, pour faire court, on l'appelle assurance vie, mais généralement, c'est une assurance dont le terme intervient soit parce qu'on est encore en vie à un terme convenu au contrat. On dit, vous allez vous assurer et si vous êtes encore en vie à l'âge de 65 ans, vous allez récupérer votre émise plus sa capitalisation. Ou alors, si vous décédez à 65 ans, vous récupérez, vos héritiers, évidemment, c'est nous, vous, récupèrent votre mise et sa capitalisation. Ça, ce sont les assurances des personnes en cas de vie, en cas de décès. Mmh. Et pour être totalement complexe et panorama, vous avez aussi des assurances, par exemple, en cas de maladie. On peut prévoir certains événements en cas de dépendance. Vous êtes trop âgé, il vous faut un revenu régulier, mmh. vous avez cotisé toute votre vie, et là, il y a des assurances dépendance. Donc, les assurances des personnes, c'est décliné comme ça, dans différentes catégories. Mais généralement, c'est en cas de vie ou en cas de décès.
Alors, le secteur des assurances en RDC est libéralisé depuis le mois de mars de l'année dernière. Pouvez-vous nous rappeler l'historique? Comment est-ce qu'on en est arrivé là?
Oui, tout à fait. L'historique est longue, donc souffrez d'entendre toutes ces étapes parce qu'il y en a eu beaucoup. D'abord, il y a déjà au début des années 2000, la FEC a inscrite à son ordre du jour, à son agenda, la nécessité de libéraliser le secteur des assurances. Il y a eu à l'époque ce qu'on appelle le Forum économique du Congo, les journées économiques de la FEC, où à chaque fois, la FEC martelait la nécessité de doter le Congo d'un marché ouvert, libre des assurances. Effectivement, à l'époque, on avait déjà atteint un certain nombre de limites avec la SONAS. Mmh. Suite à ce lobbying positif de la FEC, on en est arrivé à intéresser le gouvernement à ce sujet et le gouvernement a pris l'initiative de lancer un appel d'offres pour qu'on rédigea un code des assurances pour notre pays. Ce processus a permis de sélectionner un certain nombre de firmes. J'étais d'ailleurs à l'époque, je me souviens, je travaillais avec Pricewaterhouse, c'était dans les années 2000, donc nous étions en short list avec 3 autres firmes pour écrire le code des assurances. Finalement, il y a une firme qui l'a emporté, qui était dirigée par un ancien premier ministre centrafricain qui s'appelait Martin Zigele. Donc, on a rédigé le code des assurances du Congo. Et à l'époque, il y avait un choix entre adhérer à un ensemble plus grand qui s'appelle la CIMA, où il y a un code pour 14 pays sur le modèle de l'OADA, ou écrire un code autonome. On a pris l'option d'écrire un code autonome, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Enfin, mm-hmm. On pourrait expliquer pourquoi. Donc, on a eu ces codes. Et après, la gestation a mis beaucoup plus de temps. Il fallait que ces codes soient promulgués. Donc, ça faisait depuis 2004 qu'il y avait un code en chantier. Finalement, je brûle quelques étapes. Je vous passe le processus complet. Oui, oui. Le code va être promulgué donc le 17 mars 2015. Mm-hmm. Et depuis donc 2015, le Congo a un code. Par contre, ce code n'est pas encore applicable parce que il faudrait nommer les animateurs de l'autorité de régulation du marché des assurances qui ne sont pas encore nommés, mais néanmoins l'autorité de ces marchés est déjà créée juridiquement puisque au mois d'avril donc de cette année, mm-hmm. on a initié donc la création, publiée au journal officiel de l'ARCA, et maintenant en fait il reste juste, je dirais, pour prendre une métaphore connue, une étape à notre fusée, il reste maintenant de nommer les animateurs de cette autorité pour qu'enfin les choses sérieuses commencent.
Voilà, pour que les choses sérieuses commencent. Alors quels sont les avantages de la libéralisation du secteur des assurances en RDC?
Les avantages sont énormes et de plusieurs ordres. D'abord, l'effet induit sur l'économie nationale. Vous savez que aujourd'hui, de par le monde, l'assurance est la 4e industrie mondiale. Ça veut donc dire que si on prend à l'échelle de notre pays, ça fera le même effet qu'à l'époque où on a libéralisé les télécoms ou à l'époque où on a libéralisé le secteur du mining. Ça vous donne un petit ordre d'idée. Mmh. En termes de croissance, lorsque nous sommes à 6 points de croissance à peu près, considérez que le secteur des assurances à lui seul peut porter l'économie à hauteur d'à peu près 2 points de croissance. On parle d'une possibilité des primes encaissées d'à peu près 2,5 milliards sur un marché en pleine maturité. Donc c'est quelque chose d'énorme pour l'économie. Mmh. Ça crée des emplois, ça booste la croissance, mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est la sécurité des investisseurs. Ça permet aux gens d'investir plus parce qu'ils savent qu'ils peuvent transférer un certain nombre de risques sur les assureurs et ça permet aussi de collecter une épargne longue puisque vous savez qu'en assurance, on travaille sur une pyramide inversée. On récupère votre épargne aujourd'hui. Je prenais votre exemple. Vous êtes très jeune, vous avez 30 ans aujourd'hui. On imagine ce que vous allez épargner pendant 30 ans, mm-hmm. que vous n'allez pas toucher, que vous toucherez à 65 ans. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? On devient un investisseur institutionnel. C'est pour ça que les assureurs sont des institutions financières. On prend cet argent, on investit dans l'économie. Et aujourd'hui, notre économie souffre de quoi? D'un manque des investissements.
Le secteur de l'assurance est la quatrième industrie mondiale, vous avez
oui,
dit.
Tout à fait.
Voilà. Nous avons déjà des auditeurs en ligne qui vous suivent et qui voudraient bien participer, vous poser quelques questions. Socrate nous appelle d'Académie. Kapala est à Moba. Nous parlons des avantages de la libéralisation du secteur des assurances avec Herman Bogno, expert en banque, assurance, épargne et en évaluation des politiques publiques.
Votre connexion Internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. Radio Okapi.net, à votre service.
Quels sont les avantages de la libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo? Socrate, vous êtes à Kalemi. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à l'invité et tous les auditeurs de la radio.
Quelle est votre question, Socrate?
Oh, ma question est à titre d'exemple. Nous sommes des boutiquiers, nous payons des assurances souvent par recouvrement forcé. Si la personne n'a pas connu l'étendue durant l'année qu'on a payé l'assurance, quels sont les avantages qui lui est réservé par rapport à cette année qu'il s'est acquitté avec l'assurance?
D'accord. Merci. Kapala, vous êtes à Moba, bonjour.
Merci, bonjour, bonjour, c'est jeudi, Kachama, bonjour. Oui, si je vous ai entendu parler, ce n'est pas vous, mais c'est l'invité. L'invité a défini comme les assurances comme étant, c'est le fait de transférer les risques à l'autre. Maintenant, je voulais savoir, c'est transférer les risques là à l'autre. L'autre là, c'est qui? La deuxième question, l'assurance est-elle une condition sine qua non ou c'est facultatif? Et troisièmement, quelle est la durée de sa validité? Merci, c'était juste ça, monsieur Jeudi Kachama.
Merci, Kapala de Moba, monsieur Roman. Vous avez la parole.
Merci aux auditeurs. Je vois que les assurances s'intéressent et c'est tant mieux. Alors, je voudrais répondre à la première question. Quels sont les avantages qu'on aurait à tirer si, après avoir payé une prime, il n'y a pas de survenue de sinistre? Il n'y a pas de sinistre. Mmh. J'ai payé mon incendie. Qu'est-ce qu'on me redonne? Évidemment, ça serait facile. On n'est pas là pour redistribuer ce qu'on a payé. On est là pour gérer et mutualiser. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu d'incendie, il y a peut-être quelqu'un qui a un incendie qui coûte 1000 ou 2000 fois les primes payées par toute la communauté. On mutualise. Nous payons nos primes pour secourir un des individus de cette communauté, ce qu'on appelle la mutualisation en assurance, qui pourrait avoir un sinistre. Donc, évidemment, le bon payeur paye pour éventuellement.
Les autres,
on va pas dire de mauvais parce que je voudrais pas les fâcher, mais généralement, ceux qui ont des sinistres, hein, parfois ils sont responsables, parfois ils ne le sont pas, profitent de la mutualisation. Mmh. Voilà. Par contre, non, juste une petite précision, néanmoins, par exemple, en automobile, quand vous n'avez pas eu de sinistre, on peut avoir un système de bonus. Ça arrive qu'on vous fasse payer une prime moindre que l'année d'avant. C'est quand même un petit avantage.
S'il n'y a pas eu de sinistre durant toute l'année.
Oui, on peut vous accorder un bonus. Mmh. Généralement, en automobile.
D'accord. Et Kapala de Moba, il dit, vous parlez du transfert. Assurer une assurance, c'est le fait de transférer des risques.
Oui. Tout à fait.
Ouais, à qui il veut savoir à qui est-ce qu'on transfère ces risques?
Non, je peut-être pas été précis lorsque j'ai donné cette définition, je voulais aller vite. On transfère les risques à l'assureur évidemment. Mmh. C'est cette institution plus forte financièrement qui peut assumer à notre place les risques des événements que nous pouvons provoquer ou subir. Il posait aussi une autre question, je crois que je peux enchaîner. Mmh. Il demande si les assurances sont facultatives ou obligatoires. Mmh. Il y a des assurances obligatoires.
Lesquels par exemple?
L'assurance automobile en responsabilité civile uniquement. On peut pas vous obliger à vous assurer en tout risque, même pour les dommages que vous causez à des tiers. Il y a une assurance qui est obligatoire. Mmh. Il y a des assurances qui sont obligatoires en construction lorsque vous construisez parce que vous exposez les autres à un danger.
À des risques, oui.
À des risques. Donc c'est normal que vous puissiez les assurer. Il y a l'assurance incendie puisque vous pouvez, en communiquant l'incendie, créer des risques à des tiers. À part ça, il y a très peu d'assurances qui sont obligatoires. Mmh. D'autres assurances sont facultatives. généralement derrière les assurances des personnes, parce que là, ça n'engage que vous. Assurance maladie, assurance invalidité, assurance dépendance, assurance vie, tout ça, c'est totalement facultatif. Mais néanmoins, lorsqu'on a le moyen de le faire, il est fortement conseillé de s'assurer le plus possible. C'est quand même une garantie.
Alors, vous dites que l'assurance qui est obligatoire, c'est...
L'assurance automobile en responsabilité civile, donc pour les dommages causés aux tiers.
Mais maintenant, par rapport à l'assureur, est-ce que aujourd'hui, avec cette libéralisation, est-ce qu'on est obligé d'aller toujours à la SONAS ou on peut trouver un autre assureur de son choix au pays ou à l'étranger?
Alors, vous posez plusieurs questions et c'est très complexe. Vous avez vraiment raison de préciser parce que ça porte les germes de tout un tas de problèmes qu'on a voulu résoudre avec le code des assurances. D'abord, s'assurer à l'étranger, non. On s'assure au Congo, sauf dérogation spéciale de l'autorité de régulation dans des cas où l'assurance que vous recherchez n'existerait pas au Congo. Ça, c'est un. Deux, est-ce que on doit aller à la SONAS? On a le choix. La SONAS devient un acteur banalisé comme les autres. Il n'y a plus de raison d'y aller. Aujourd'hui, on y va, contraint et forcé. On n'a pas le choix. Demain, on pourra aller à la SONAS si on veut, aussi ailleurs. L'un des avantages qu'on n'a peut-être pas cité ici, c'est cette concurrence. Vous savez, les assureurs, plus ils sont nombreux, plus il y a une émulation sur le marché, plus ils sont imaginatifs dans les produits qu'ils proposent.
Plus il y a des services de qualité.
Et voilà, plus ils améliorent la qualité et plus on a le choix. Donc, il faut faire jouer le choix.
Voilà. Par rapport, vous avez parlé du bonus qu'on peut obtenir. Ouais. Si durant une année, il n'y a pas eu de sinistre, est-ce que ces bonus existent ici en RDC?
Écoutez, à ma connaissance, non, puisque on n'a pas encore de vrais assureurs. Hein, il faut dire clairement les choses. Ce sont des choses que j'ai essayé d'initier lorsque moi-même j'étais à la tête de la SONAS, mais je ne suis pas resté suffisamment longtemps pour mettre en place ces réformes de fonds. Hein. Je suis resté 18 mois à la tête de la SONAS. Il faut du temps dans un pays qui n'a pas une culture d'assurance pour arriver à mettre en place ce type de choses. Et il faut surtout, je pense, un professionnalisme. Donc la SONAS aujourd'hui, très clairement, n'est fait pas cela, mais un jour il faudrait bien qu'elle le fasse parce que les autres le feront.
D'accord. Alors parlez-nous de l'autorité des régulations du marché des assurances. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on mette rapidement en place ces structures et elle va dépendre de quel ministère ou de quel disons service de l'État?
Alors l'autorité de régulation, ici on l'appelle l'ARCA, donc l'autorité de régulation du marché des assurances du Congo. Cette autorité dépendra normalement, selon les codes des assurances, du ministère de Finances, qui a d'ailleurs déjà commencé les recrutements des inspecteurs contrôleurs, donc c'est bien la preuve que ça dépend du ministère des Finances. Et cette autorité est déjà mise en place, puisque le décret portant sa création a été publié au journal officiel, je crois, le 26 avril, si je m'abuse, de l'année 2016. Par contre, ce sont les animateurs de l'ARCA qui ne sont pas encore nommés, puisque les principaux animateurs doivent être nommés par un arrêté du président de la République sur proposition du Premier ministre. Donc c'est ce que les gens attendent en fait pour se positionner sur le marché.
Et quel sera le rôle de cette structure?
Alors cette structure a un rôle principal. D'abord un rôle de contrôle. A posteriori, a priori, a posteriori. Ça, c'est son rôle majeur. Il a un autre rôle dans le contexte congolais, c'est celui de rendre pratique, exploitable les codes. Vous savez, lorsqu'on a écrit les codes, on a laissé beaucoup d'articles qui nécessitent des décrets d'application. Il y a à peu près 109 articles. 109 articles qui nécessitent qu'on apporte des modifications techniques ou des compléments. Donc, il faudrait que cette autorité travaille à la complétude du code. Il faudrait également que cette autorité surveille pour fournir des statistiques sur le marché, fournir des informations aux assurés. Donc il a vraiment un rôle central. C'est lui qui va piloter le marché.
Voilà, c'est lui qui... Et contrôler les entreprises. Et est-ce que déjà on a plusieurs assureurs ici en RDC à part la SONAS?
On a plusieurs assureurs, si on veut être sincère, puisque la SONAS ayant quasi failli à toutes ses missions, vous avez des assureurs qui sont là, qui font du fronting, ce qui est encore interdit tant qu'on n'est pas dans le cadre du nouveau code.
C'est quoi le fronting?
Alors le fronting, c'est le fait de faire porter symboliquement un risque par la SONAS, juste pour avoir une attestation, et finalement s'assurer ailleurs. On vient à la SONAS, on dit je vais assurer tel que vous me roumez, je vous donne 500 000 $, alors qu'on sait que la prime réelle à payer serait de 2-3 millions, on va s'assurer ailleurs. c'est comme la MONUSCO par exemple, avec les débats
des véhicules,
des
qui véhicules, sont assurés,
les combats menés avec bravoure par l'actuel ministre de l'économie à l'époque ADG de la SONAS. Ben voilà typiquement le type de choses, je suis désolé de dire ça ici à Okapi, mais voilà typiquement le type de comportements qui n'ont pas encouragé hier l'éclosion du marché des assurances chez nous. Mais voilà, aujourd'hui il y a une autorité de régulation qui devra y veiller et faire en sorte que tout le monde s'assure au Congo, en donnant évidemment des garanties
aux voilà assurés. Justement, c'est peut-être à cause des garanties que certains préfèrent aller ailleurs.
C'est jamais totalement blanc ou totalement noir, il y a toujours des nuances.
Quels sont les avantages de la libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo? Herman Bonio, expert en banque, assurance, épargne et évaluation des politiques publiques, est l'invité de Copy Service. Des questions et préoccupations, n'attendez pas les dernières minutes. Appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocopy.net.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Quels sont les avantages de la libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo? Herman Bonio, expert en banque, assurance, épargne et en évaluation des politiques publiques, est l'invité d'Okapi Service. Alors Herman, dites-nous, comment arrive-t-on à calculer par exemple la prime pour une personne qui a une assurance?
Oui, il y a plusieurs techniques. Comment se fait les calculs ? Il y a plusieurs techniques pour calculer la prime. Hein. Effectivement, la prime juste n'existe pas. Les assureurs sont des commerçants comme les autres. Ils essaient de tenir compte d'un certain nombre de facteurs, le pouvoir d'achat, le coût de réparation, par exemple, lorsqu'il s'agit de l'assurance automobile. En assurance vie, par exemple, on travaille avec des tables de mortalité. Voilà typiquement le genre de choses que l'autorité de régulation aura à mettre en place pour que les assureurs travaillent. Il faudrait qu'on travaille sur la même table de mortalité tous. Or, cette table de mortalité doit être proposée par l'autorité de régulation. En fait, c'est un calcul actuariel qui tient compte d'un certain nombre de facteurs à fonction de la branche dans laquelle on est. Si on est en branche des risques et dommages, automobiles, les calculs n'est pas fait de la même manière. Mais généralement, c'est la résultante de l'idée qu'on a des primes globaux à encaisser toutes les primes et réparti sur un certain nombre des risques qu'on est susceptible d'assumer en ayant enlevé les provisions. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on fait ces calculs-là sur une masse, mais par contre, l'indemnisation est toujours individuelle. Mais il y a un calcul actuariel, il y a des gens très savants qui font des mathématiques très avancées, qui savent mettre en place tous ces paramètres-là et sortir une prime.
Voilà. Mais qui a droit à une assurance?
Tout le monde.
Tout le monde.
Oui. C'est bien, c'est un produit vraiment universel. Tout le monde a droit à une assurance et c'est souhaitable que tout le monde ait une assurance. J'ai mené une expérience à la tête de la SONAS à l'époque, par exemple, sur les chauffeurs taxis. Vous savez qu'aujourd'hui à Kinshasa, 3/4 des taxis dans lesquels vous montez n'ont pas d'assurance. Mais à l'époque, nous leur avons proposé de faire de la micro-assurance, c'est-à-dire de souscrire à des assurances qui correspondaient à leur fonctionnement et qui pouvaient être adaptées à des petits revenus. Un chauffeur taxi aujourd'hui verse à peu près $30
par jour
de versement, au propriétaire du taxi. On lui dit, ben écoutez, plutôt que d'attendre la fin de l'année, c'est compliqué, vous n'avez pas à constituer une épargne, pourquoi vous ne viendrez pas payer chaque jour $1 ou $2? Ce qui, à la fin, vous aura permis de payer, allez, à peu près $600. $2 par jour, on prend 300 jours travaillés, sur les 365, parce qu'il faut quand même se reposer de temps en temps. Ces chauffeurs aura payé, on a fait cette expérience avec les gens de la SECO, et des FORC, qui sont des associations de conducteurs.
Et ça donnait déjà de bons résultats.
Oui, ça donnait de bons résultats. C'était très prometteur. Malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de cette expérience. Mais ce que je vais vous dire, c'est que finalement, en payant $2 par jour, donc en faisant de la micro-assurance, ces conducteurs ont payé plus que vous qui payez en une fois. En une fois, une assurance automobile, en moyenne, en garantie des dommages aux tiers, c'est à peu près $300. Donc, vous prenez une RC, vous payez $300, Mais si vous voulez l'étaler sur toute l'année, on vous propose de payer $2 par jour. Vous êtes content, vous le faites. Mais à la sortie, vous avez payé $600. Donc, vous voyez, parfois, ça a des avantages et des inconvénients, mais ça dépend de la manière dont on présente les choses.
Mmh. Est-ce qu'une maman, une maraîchère, un vendeur au marché, peut aussi avoir une assurance?
Si elle veut, si elle souhaite, elle peut d'abord prendre une assurance pour garantir ses vieux jours. Elle peut payer des petites primes parce qu'elle ne sera pas maraîchère toute la vie. Il arrivera un moment où elle ne pourra plus physiquement avoir une activité de maraîchère et elle aura besoin d'un revenu en ce moment-là. Donc, elle peut prendre une assurance, par exemple, vie, en disant, si je suis encore en vie à 55 ans, vous pourrez me reverser une rente. Elle peut prendre une rente où elle paye petit à petit pour assurer la scolarité de ses enfants. Vraiment, il y a des assurances pour tout le monde et je conseille à tous ceux qui peuvent de prendre les assurances. Par contre, j'inviterai les acteurs qui viendront sur notre marché de tenir compte du pouvoir d'achat et d'essayer, dans la mesure du possible, de proposer aussi des produits, des micro-assurances, c'est-à-dire avec de petites primes payables sur des fréquences peut-être un peu différentes pour aider justement ceux qui n'ont pas encore cette habitude d'épargne à adhérer aux assurances.
Mais on a l'impression, depuis la libéralisation de ces secteurs, on sent que ça n'avance pas tellement.
Vous avez totalement raison. Ça, c'est l'impression qu'on peut avoir de l'extérieur. Mais nous, en tant qu'experts, nous savons que ça avance puisque je vous dis, tout est déjà quasiment fait. Il manque plus qu'une petite chose, c'est la nomination des animateurs. Mais bon, mettez-vous aussi à la
place. Parce que par rapport aux assureurs, c'est l'assureur qui est connu aujourd'hui, c'est la SONAS. Mais les autres, mais où sont-ils, ces assureurs?
Ils sont là. Les assureurs sont là. Ils ne peuvent pas exercer. Mais bon, mettez-vous à la place des autorités politiques de ces pays. Ils n'ont pas envie de se tromper. Ils doivent prendre le temps de choisir la bonne personne. Parce que pour le coup, il faut la bonne personne à la place qu'il faut. Donc quelqu'un qui maîtrise bien les codes des assurances, qui le comprend et qui va pouvoir apporter une garantie de bonne exécution par rapport aux assureurs qui vont s'installer. Mais nous, chaque jour, nous sommes consultés. Moi-même, je suis responsable d'une entreprise de consulting. Nous sommes énormément consultés par des assureurs qui sont à nos portes, qui attendent le signal pour demander leur agrément et commencer à exercer. Juste une petite anecdote. Vous savez, à l'époque où j'étais à la tête de la SONAS, il y a eu un grand conflit très retentissant. On en a parlé à Okapi et ailleurs, parce qu'un ministre des Finances à l'époque avait décidé tout seul d'agréer une entreprise d'assurance, alors qu'il n'y avait pas de code. Je crois même que ça m'a valu quelques difficultés. Ben, écoutez, juste aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les assureurs ont compris également. Donc à l'époque, on a eu raison peut-être trop tôt, mais on a fait de la pédagogie. Ça a permis à beaucoup de personnes de ne plus s'aventurer sur ces marchés-là, parce qu'ils savent que la rigueur de la loi risque d'être tout à fait...
Oui, la loi risque de s'appliquer dans toute sa rigueur. Non, on va accueillir Nathalie Lunga de Kinshasa. Nathalie, bonjour.
Bonjour, Jody.
Quelle est votre question?
Ouais, j'aimerais savoir, vous parlez des assurances, là. Déjà, avec la SONAS, on a vu de toutes les couleurs. Mais alors, comment peut-on être sûr que, avec les assureurs privés, ça va marcher? Parce que franchement, avec la SONAS, ça ne marche pas.
Qu'est-ce qui ne marche pas, Nathalie?
Ben, vous pouvez être assuré, vous avez un sinistre, on va vous rembourser le jour où on va appeler la télé pour vous donner $500, $200, qui vaut rien par rapport au coût du sinistre. Et vous devez d'ailleurs attendre longtemps. Et alors, on sait à quel ça s'est voué, mais avec maintenant les privés, comment est-ce qu'ils vont faire pour que ça soit pas pareil, que ça soit comme en Europe, quoi, quand vous êtes assuré et vous êtes bel et bien sûr qu'en cas de problème, vous n'aurez pas de problème.
Voilà, d'accord. Merci Nathalie Lunga de Kinshasa. Herman Bonio.
Ben écoutez, non, c'est vraiment une question pertinente. Je ne voudrais pas non plus qu'on accable trop la SONAS. Elle fait ce qu'elle peut dans un contexte difficile. La médiatisation du paiement des sinistres, je ne veux pas non plus régner puisque c'est mon idée. C'est moi qui ai instauré ces paiements spectaculaires à la télévision.
Vous pourrez donner confiance hein.
Oui, ben évidemment, parce qu'il fallait que ça soit transparent. Parfois, on apprenait qu'on avait décaissé de l'argent à la SONAS pour payer des sinistres et finalement l'argent n'est pas arrivé à destination. Il fallait que ça soit transparent, que ça se passe à la télé. Par contre, effectivement, j'ai l'impression, le sentiment, après mes 18 mois passés à la tête de la SONAS, que cette procédure qui était louable, à mon sens, à l'époque, a été un tout petit peu détournée, puisqu'aujourd'hui, effectivement, c'est devenu symbolique. L'idée, c'est de montrer qu'on paye et qu'on paye réellement. Donc, on devrait dire, ce sinistre a eu lieu telle date, on paye tel montant. Ça, ce n'est pas...
Et dit. Nathalie déplore le fait que le montant qu'on paye ne correspond pas
exactement
au sinistre.
C'est ce que j'ai dit. On fait du spectaculaire. Oui. C'est devenu juste symbolique. Là, on a détourné une procédure qui avait quand même une vertu pédagogique certaine. Donc,
Mais est-ce qu'on peut faire aux privés qui vont venir avec la libéralisation de ces secteurs?
Nathalie a totalement raison. Il ne faut plus jamais donner des chèques en blanc à personne. C'est vrai pour les assurances, c'est vrai pour d'autres secteurs. Donc, il faut des contrôles. Il faut une autorité de régulation, de contrôle à qui on rencontre. Et une autorité forte qui sera à mesure de comprendre l'activité de ces assureurs et éventuellement d'anticiper des fraudes éventuelles. Donc, effectivement, c'est tout le travail et ça explique peut-être pourquoi, jusqu'ici, cette autorité n'est pas encore nommée, parce qu'il faut vraiment que l'État ne se trompe pas. Si on se trompe...
Mais il ne faut pas que ça traîne aussi. Il faut qu'on se donne un délai. Voilà, d'ici telle période, on doit lancer les choses.
Vous savez, le monde n'a pas été fait en un jour. Les choses doivent mûrir, il ne faut pas mettre la pression sur le gouvernant, il a ses raisons, il a ses réalités que nous ne maîtrisons pas. Ce qui est important, c'est que ça arrive un jour, mais il est important que ça arrive, ça arrivera.
D'accord. Arsène nous appelle de Gatumba, au Burundi. Bonjour Arsène.
Bonjour, moi je vais aborder nécessairement pour les pistes de solution, parce que c'est important. Aujourd'hui, nous avons les charrois qu'on achète souvent, je me dis d'abord pour le cas d'espèces pour des motos. Bon, ici, d'abord, au Burundi, pour le taximètre moto, on exige d'abord de payer l'assurance. Même si vous achetez la moto, vous n'avez pas aucun droit de circuler. Et on recommande pour les fournisseurs qui les vendent de mettre directement les indices pour l'assurance. Pourquoi notre pays, on ne pouvait pas effectuer cette politique? Parce que, au niveau de Bukavu, nous voyons la King Shop qui vend les motos. Et on délivre des motos sans aucun document pour l'État. Il n'y a pas l'assurance. Pourquoi pas la SONAS ne peut pas travailler en collaboration avec des maisons là qui font la vente des véhicules. Par exemple, à Bukavu, il y a Kin Moto, ça vend des Land Cruiser, et on exige directement des dédouaniers et on paye les frais de dédouanement. Mmh. Autre chose, aujourd'hui, je suis en train de sentir, il y a un grand problème pour la SONAS parce que bon, il n'y a pas assez de sensibilisation, mais il y a assez d'éléments. Lorsque il y a les taximens, on ne les sensibilise pas, et c'est comme si on ignore, hein, on ignore la finance, ça peut être un défaut. Ils sont dans des bureaux, il ne faut pas de sensibilisation. Au moment où nous voyons les jeunes gens qui travaillent dans des banques, ils exigent déjà d'épargner parce qu'il y a une sensibilisation. Donc moi je sens, il y a le défaut parce qu'il n'y a pas la sensibilisation. C'était ça ma réaction d'abord.
D'accord, merci. Okito, vous êtes en Mbandaka. Bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour.
Quelle est votre question, Okito?
J'aimerais savoir qu'est-ce qui justifie le fait que l'assurance soit chère ici, chez nous, par rapport aux pays voisins. Un exemple par rapport à l'assurance véhicule. Au Congo, on paye $300, mais en Ouganda voisin, c'est $20.
D'accord, merci pour la question, Herman Bougnon.
Oui, merci. Je vais d'abord réagir à la proposition. En fait, c'est pas une question de notre ami de
Arsène de Gatumba.
Voilà, qui nous appelle du Burundi. Mm-hmm. Non, évidemment, je pense que toutes les bonnes choses qui se pratiquent ailleurs sont bonnes à prendre. Si effectivement on pouvait rendre obligatoire, et on a essayé, par exemple, d'assurer les véhicules lorsqu'ils sortent de la douane, ce serait déjà plus simple. On est sûr que en commençant à rouler, ces véhicules sont assurés. Mais on s'est battu à l'époque et la SONAS n'a pas été éligible au guichet unique, là où l'OCC, l'OFIDA, enfin la DGDA, tout le monde prend sa quote-part lorsque la marchandise arrive. Le véhicule étant un marchandise comme un autre, mmh. on devrait le faire. C'est valable d'ailleurs pour le transport de marchandises, l'assurance des marchandises transportées. Donc effectivement, il y a une possibilité de s'installer très en amont pour percevoir des primes. Mmh. Donc c'est une bonne idée, c'est un exemple à suivre. Il faudrait que les concessionnaires automobiles vendent le véhicule, le moto compris, avec déjà les assurances. C'est pas une mauvaise idée. Mmh. En ce qui concerne le
coût, hein, de l'assurance,
oui, il y a aussi une question de
par rapport à la sensibilisation,
par rapport à la sensibilisation et recouvrement.
Oui.
Moi, j'ai été frappé par une chose. Lorsque je suis arrivé à la tête de la SONA, je vis un type avec un bouclier en train de pourchasser l'assuré. Je crois que c'est une image à changer. J'avais essayé de changer, j'avais proposé un nouveau logo. Oui. C'était un parapluie qui couvrait tout le monde. Mais bon, ça n'a pas été retenu ou ça a été enlevé lorsque je suis parti. L'idée, c'est effectivement qu'on doit faire plus de pédagogie, plus de sensibilisation. Et évidemment, le recouvrement aussi est nécessaire et utile parce qu'il ne s'agit pas non plus de prendre des engagements et de ne pas les respecter. Mmh. En ce qui concerne la prime trop chère, ça c'est un débat compliqué. Il faudrait plus d'éléments pour prendre position.
Il dit en Ouganda c'est 20 dollars, ici mais c'est 300.
Oui, mais ça dépend. Il faut comparer ce qui est comparable. Je ne suis pas sûr qu'on puisse affirmer les choses aussi simplement. Peut-être que ces 20 dollars-là, c'est juste un aspect, parce que attention, il y a ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons licence road driving, un espèce de droit de rouler sur les routes qui est perçu par les assureurs. Ça peut être ça, et je crois même que c'est de ça qu'il parle. C'est absolument pas une assurance. Ça ne donne droit à rien, ça vous permet juste de rouler, d'avoir un premier niveau de prime entre guillemets pour entretenir les routes. C'est un peu la petite taxe que nous payons lorsque nous achetons du carburant pour financer le Foner. Donc ce n'est pas tout à fait de l'assurance, c'est le droit de rouler. Ça se pratique beaucoup dans les pays anglo-saxons. Je crois que notre interlocuteur confond un peu ces deux choses-là. L'assurance à 20 dollars en automobile, quand on regarde ne serait-ce que les prix des garagistes agréés, ça ne peut pas le faire.
Alors pour terminer, Roman Bognon, on retient que la libéralisation du secteur des assurances est une bonne chose.
Une très bonne chose.
Très bonne chose. Mais la procédure, ça tarde un peu. Ça
pique. C'est votre point de vue. Moi, j'ai dit que ça doit mûrir. Ça doit mûrir. Il faut qu'on choisisse les bonnes personnes et il ne sert à rien d'être trop pressé parce que si on se trompe, on aura des soucis demain, on n'aura rien fait.
Bien. Herman Bognon, expert en banque, assurance, épargne et en évaluation des politiques publiques. Merci.
C'est moi qui vous remercie.